Oui, vous connaissiez Notre-Dame de Lourdes, mais connaissez-vous Notre-Dame de Celles? Comme à Lourdes, la Vierge est apparue dans ce coin perdu des montagnes ariégeoises, et comme à Lourdes, l'eau de la source s'est dotée de vertus miraculeuses. Mais à la différence de Lourdes, la tradition des pèlerinages s'est progressivement perdue à Celles depuis le XVIIe siècle, jusqu'à ce que mon invité croise le chemin de la chapelle. Bonjour François Prieux.
Bonjour, oui. Voilà, je suis à côté de la chapelle pour vous
Vous
écouter.
êtes D'accord. Vous êtes diacre du secteur de Celles. Vous êtes président de l'association de la restauration de la chapelle. Merci d'être avec nous ce matin pour nous raconter une bien belle histoire, hein, celle des apparitions de Celles, qui a croisé également votre histoire personnelle. On va le voir tout à l'heure. Elle a croisé votre histoire et a nourri votre histoire, a porté du fruit, comme probablement pour bien d'autres pèlerins. On va d'abord en venir à l'histoire des apparitions, si vous voulez bien, François Prieux. Tout commence au XVIIe siècle dans un petit village, donc Celles. Ça s'écrit Celles. Nous sommes à quelle période?
Voilà, au XVIIe siècle, donc en 1686. À ce moment-là, c'est le roi Louis XIV qui règne sur la France. Et là, on est dans la campagne reculée de l'Ariège, un secteur assez pauvre, assez modeste. Et là, il y a un petit village donc, qui s'appelle Celles, qui a une histoire quand même plus ancienne, puisque le mot vient de cellule, et il reste encore aujourd'hui dans le village un château, qui est les restes d'un monastère, donc dans le haut Moyen-Âge, un monastère bénédictin, dont celle viendrait de cellule. Voilà. Et
Et
là.
alors, à l'époque des apparitions, vous me l'avez dit en préparant cet entretien, Celles est marquée par un climat de violence. Que se passe-t-il à l'époque?
Voilà, on n'a pas tous les éléments, mais on sait qu'il y avait un conflit dans le village. Et particulièrement, des personnes avaient été accusées à tort. Donc, des calomnies très graves. Donc, mais on n'a pas le détail, si vous voulez, de ce qui s'était produit. Mais on sait qu'il y avait vraiment une période très difficile pour ce petit village, hein, qui est très modeste.
Et alors, c'est dans ce contexte que surviennent les apparitions. À qui la Vierge apparaît?
Voilà, un jeune paysan qui s'appelait Jean Courdil. Voilà, on pense qu'il avait 15 ans. On a sur les registres. Son âge grâce à son baptême qui a été enregistré à l'époque. Et donc il habite dans la colline, si vous voulez, le village de Celles est situé entre Lavelanet et Foix. Et le site où va se dérouler cet événement étonnant se situe à peu près à 2 km dans la montagne, donc près d'une ferme. Donc ce jeune garçon habite avec sa famille sur cette colline, de manière très très pauvre, hein. La terre est très pauvre dans cet endroit. Et donc ils reviennent de travailler au champ. Lorsque cet événement va se produire.
Quel événement?
Alors voilà, donc il est en train de remonter du travail, il vient de travailler un champ de millet, et il prie sur ses doigts la Vierge, hein, en traversant la forêt, le petit sentier remonte sous les arbres, pour aller à sa maison. Et voilà qu'en marchant, soudainement, il voit ce qu'il racontera, sans doute il l'a raconté en patois, il voit un gros pigeon blanc qui vole au-devant de lui, il est étonné. C'est ce que l'on sait par les comptes rendus que deux prêtres réaliseront quelque temps après sur les lieux. Et donc, il voit ce gros pigeon blanc, il est très étonné. En avançant, il distingue une petite fille. Alors, il ne connaît pas cette petite fille, alors qu'il connaît toutes les fermes autour. Et il est à nouveau très étonné, même un peu craintif, et il continue son chemin. La petite fille continue avec lui, et elle s'arrête près d'une fontaine. Alors, c'était sans doute l'endroit où la famille, puisqu'ils habitaient à 100 mètres de là, venait chercher l'eau, peut-être les animaux venaient boire à l'abreuvoir. Et donc, elle invite à s'arrêter et à se mettre à genoux avec lui. Et lui, sans doute, est très étonné, craintif de cette personne, et qui lui révèle qu'elle est la Sainte Vierge. Et donc, il y a un échange entre tous les deux. Elle lui dit, tu vois, Jean, dans le village de Celles, il y a de grands conflits, vraiment quelque chose de très difficile qui se vit. Et puis, je t'envoie. Tu vas aller les voir, leur dire qu'il faut qu'ils changent de vie. C'est pas une manière de vivre ensemble. Et donc, lui, la chose étonnante, c'est que, ben, il va y aller, il va descendre au village, il va rencontrer ces gens. Et il va leur, alors, sans doute, ces gens ont été touchés dans leur cœur par rapport à ce jeune garçon qui vient, qui est pas facile de dire, déjà, j'ai vu une jeune fille, voilà, elle m'a dit qu'elle était la Vierge, et puis elle m'envoie vers vous pour vous porter cette demande qu'il faut vraiment vivre autrement. Et chose étonnante, les gens vont monter à pied, on raconte même certains sont montés à genoux, le petit sentier qui montait jusqu'à cette fontaine. Et les personnes vraiment font un acte de transformation. Et ensuite, une quarantaine de jours plus tard, au pied de son lit, la Vierge lui réapparaît. Et lui
chez
dit,
lui, alors, à ce moment-là hein.
Alors voilà, dans sa maison, au matin, on dit à l'aurore, le procès-verbal raconte cet événement, ce deuxième événement, à l'aurore, elle lui apparaît, elle lui dit, tu sais Jean, c'est bien, le peuple s'est bien corrigé, voilà la phrase qui est employée. Et pour terminer, elle lui dit, l'eau sera bonne. Et puis la Vierge disparaît. Et donc cette parole, Jean va sans doute la transmettre aussi. Et là, ça va être une deuxième foule qui va monter sur la colline, en apportant toutes les personnes malades dans leur famille. Donc on a le récit de tous ces événements, avec la description très minutieuse du compte rendu, avec les mots des maladies de l'époque, qui sont vraiment différents des nôtres aujourd'hui, mais qui se reconnaîtraient aisément. Et il va y avoir toute une série d'événements, on pourrait dire, prodigieux de guérison sur les lieux, puisque le compte rendu de l'époque, donc à ce moment-là, il y a une 42 témoignages de guérison reconnus comme miraculeux. Bon, il n'y avait pas d'enquête comme il pourrait y avoir aujourd'hui, bien sûr.
Alors, on peut s'étonner hein, que votre récit nous saisit presque autant. Évidemment, on pense à presque autant que Bernadette Soubirou a saisi les foules 2 siècles plus tard. On peut s'étonner que Notre-Dame de Celles n'ait pas connu la renommée de Lourdes. Quelles explications vous y voyez, François Prieux ?
Alors, on ne peut pas dire ça tout à fait, puisqu'à l'époque, il y a eu beaucoup de monde dans les témoignages qu'on a. Des personnes venaient d'Espagne. Donc ça a drainé une foule très importante. Alors c'est vrai que l'événement de Lourdes a peut-être après transformé les choses du fait de l'accès, c'est une ville, le confort des pèlerins était quand même mieux assuré qu'à celle qui est dans la montagne, hein, sur une colline. Voilà, il y a toute une série de choses sans doute qui ont... Et puis bon, progressivement, ça s'est développé quand même, puisqu'au 19e siècle, on va construire la grande chapelle actuelle. Parce quand on dit chapelle, on imagine un bâtiment modeste, alors que c'est un grand bâtiment, qui est même presque plus grand que l'église paroissiale du village. Voilà, au départ, il y a un tout petit oratoire qui est construit. L'évêque vient le bénir en 1695. Et ensuite, au 19e siècle, donc, ils vont construire ce grand bâtiment. Voilà. C'est plutôt au début du 20e siècle qu'il y aura un petit peu, la chapelle va tomber un petit peu dans l'oubli. Voilà, il y a toujours des pèlerinages, mais très modestes, oui.
Alors, vous dites qu'il y a eu une première chapelle 10 ans plus tard, en 1695. Ça veut dire que Jean Courdil n'a pas eu le mal qu'a eu Bernadette à convaincre les autorités de ce qu'il s'était produit.
Oui, sans doute, ça a dû être accueilli. Alors, il faut se placer dans le contexte de l'époque. On est à un moment aussi qui est troublé pour l'Église, ce qui s'appelle en histoire, les personnes intéressées pourront se renseigner, ce qu'on appelle le schisme de la régale. C'est-à-dire que le roi voulait s'attribuer les bénéfices ecclésiastiques, on appelait ça comme ça, sur un évêché lorsque le siège épiscopal était vacant. Et donc en Ariège, c'est le cas. Donc l'Ariège va un petit peu concentrer ses problèmes très, très graves, puisqu'il va y avoir des grandes divisions. Et donc il n'y a pas d'évêque au moment de l'apparition. Et cet évêque qui va bénir la chapelle est le nouvel évêque qui va prendre donc la suite. Et là, les choses se sont apaisées, bien sûr. Hein.
Est-ce que ce schisme du régal dont vous nous parlez explique également la raison, donne une explication à ce que l'Église n'ait pas reconnu officiellement ce qu'il s'est passé, les apparitions de la Vierge et puis les guérisons?
Voilà, alors de suite, le vicaire général de l'époque, donc en 1686, envoie deux prêtres du secteur là, pour faire une enquête. Donc tout ça va être consigné. Une deuxième va être faite un peu plus tard, avec d'autres précisions. Voilà. Et puis il y aura quand même la bénédiction de cette chapelle en 1695 par l'évêque. Et puis tout au fil des 3 siècles, un peu plus de 3 siècles maintenant, les évêques président le pèlerinage. Et ça a été le cas cette année aussi pour notre évêque, Jean-Marc Echen, qui est venu célébrer le pèlerinage qui est au mois de juillet. Voilà.
Donc une reconnaissance tacite, hein, une petite confidence de Mgr Echen lorsqu'il est venu nous parler de sa lettre pastorale en début du mois de janvier. Il me disait que peut-être qu'en Ariège, les Ariégeois avaient un caractère qui faisait qu'ils n'avaient peut-être pas forcément envie de voir débarquer autant de monde qu'à Lourdes dans leur belle montagne. C'est peut-être ça, hein ?
Alors voilà, c'est lié peut-être à la grâce du lieu. C'est un lieu très, très humble, très simple. Je crois que c'est apprécié aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure un petit peu.
C'est ça que viennent chercher les pèlerins à Celles ?
Je pense, oui, il y a quand même quelque chose de très fort, surtout une époque où Bon, voilà, on voit bien les dommages sur la nature. Et là, on est plongé, vous savez, l'Ariège est resté très, très simple, peu abîmé par la modernité du béton. Et donc, c'est très simple. On est vraiment au cœur de la nature avec cette fontaine. Vous voyez, donc il y a les pèlerins, bien sûr, qui viennent rencontrer Dieu dans ce lieu et puis avoir une approche de la Vierge. Mais il y a aussi des amoureux des vieilles pierres, des promeneurs qui viennent. Il y a tous les jours du monde.
Donc, depuis le XVIIe siècle, il y a eu toujours du monde, vous me l'avez dit. Et puis quand même, le pèlerinage, la pratique du pèlerinage, c'est un petit peu, est un peu tombé dans l'oubli. Et depuis 1999, votre vie à vous est étroitement liée à ce lieu. J'aimerais que vous nous racontiez la façon totalement hasardeuse avec laquelle vous l'avez rencontré, ce lieu.
Voilà. Alors ça, c'était en 1983, donc moi j'avais 21 ans, vous voyez, pour vous situer. Et donc avec mon épouse, on se promenait dans les Pyrénées et puis on a trouvé cette petite chapelle. On aimait bien aller visiter les chapelles et elle était à l'abandon. Proche de la ruine, on peut dire, hein, en 83. Et en visitant la chapelle, on a vu sur le mur une pierre où il est écrit ici, la Vierge est apparue le 28 mai 1686 à Jean Cordier. Et on s'est dit, tiens, ben, dans 3 ans, ce sera le tricentenaire de l'apparition, hein, donc en 1986. Et donc, on s'était un petit peu cette promesse de revenir ce jour-là. Et donc, on est venu à pied du village avec le casse-croûte. On a visité la chapelle, on s'est aperçu qu'elle était toujours dans le même état qu'on l'avait découvert.
Plus ou moins à l'abandon.
Voilà,
plus ou moins à l'abandon.
Oh oui, dans un état très délabré. Et puis on est reparti, nous habitions dans le Tarn, on est reparti dans notre coin. Et il se trouve que dans le mois qui a suivi, le prêtre à l'époque a essayé autant qu'il le pouvait de l'entretenir, d'essayer de démarrer une dynamique un peu pour la restaurer. Il a organisé un grand pèlerinage, donc, qui a été présidé par Monseigneur Marty, donc le cardinal de Paris, qui avait pris sa retraite de Paris, qui est venu ce jour-là, et je crois qu'il y a eu plus de 500 ou 600 personnes au mois de juillet. Alors, ils avaient un petit peu caché la misère avec des toiles, et ça a été une très belle fête. Et à partir de là, il s'est dit, ben, il faut faire quelque chose pour restaurer la chapelle. Et entre-temps, ben, nous, on avait notre vie, et puis après des événements, voilà, après un pèlerinage, on a eu le désir de revenir vraiment dans la foi chrétienne, dans l'Église. On était baptisés tous les deux. Mais ça a été un cheminement pour nous de retour à la foi. Et au moment d'un changement de vie qu'on a vécu dans ces années-là, on a décidé de venir habiter près de cette chapelle parce qu'on avait été très touchés par ce lieu. Une grâce du lieu, vous voyez, il faut y venir pour le ressentir. Voilà, puis oui. Il nous a touchés à nous. Et puis donc on a décidé de venir habiter à côté de la chapelle. Donc on habite un petit hameau en dessous. On s'est installé là, donc maintenant il y a plus de 30 ans, en 89. Et puis s'est trouvé, voilà, je dirais une providence, que d'autres personnes étaient intéressées pour faire vivre le sanctuaire. Et il y a eu comme ça une conjonction de bonne volonté locale du village, entre autres le maire du village, René Autier, à cette époque-là. Et toutes ces personnes se sont mises ensemble et on a créé l'association en 1999. Alors, et là, on a commencé à demander des subventions, faire des études de sol, à reprendre. Et l'État a aidé à environ 20% des travaux. Le reste, c'est des donateurs. C'est ça qui est extraordinaire, des petits dons de 10 euros jusqu'à des sommes beaucoup plus importantes. Et il y a eu cette énergie pour reconstruire vraiment le lieu et des travaux énormes ont été faits. C'est prodigieux. Et nous, on est un petit peu témoins de ça, on y a participé, mais à notre niveau, hein. Avec d'autres, c'est vraiment un travail d'équipe. Le maire y a participé, et le maire actuel qui a pris la suite, aussi est vraiment pris dans cette dynamique. Il a participé à créer cette nouvelle route qui permet d'y monter au sanctuaire pour les personnes qui aiment la peine à monter à pied, vous voyez. Personnes âgées ou à mobilité réduite, oui.
Et est-ce que les anciens, est-ce que les habitants de Celles sont attachés à ce lieu, connaissaient l'histoire que vous nous avez racontée, François Prieux?
Alors certains la connaissaient, d'autres peut-être non, mais tout le monde n'est pas passionné par ces histoires-là, bien sûr. Mais bon, je pense que ça a été bien accueilli, beaucoup de personnes montent, et des gens du village aident aussi à l'entretien des terrains pour le débroussaillage. Il y avait vraiment toujours des bonnes volontés. Je crois que ça a fait l'unité vraiment sur le projet, hein. C'est porté par tout le monde.
Et actuellement, ça a fait l'unité.
Oui. Ah oui, je pense, oui, vraiment.
C'est tout le monde. Et alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, le sanctuaire accueille du monde, vous me l'avez dit, hein, entre le printemps et l'automne. Elle est fermée pendant l'hiver, mais en revanche, la fontaine, elle, reste toujours accessible. Voilà. Et les moments de pèlerinage, c'est le mois de juillet. Hein.
Voilà, le grand pèlerinage, c'est au mois de juillet. Il y a plusieurs messes dans l'année. On a le programme sur Internet, sur le site du diocèse de l'Ariège, et il y a tous les détails. Voilà, l'évêque, il y a quelques années déjà, a nommé une équipe d'animation pour la vie spirituelle. Le curé de foi a né le chapelain, et puis il y a une équipe autour de lui pour faire vivre tous les dimanches après-midi. Quelqu'un ouvre, vous voyez, on a essayé de... Il faut que le lieu vive, on l'a restauré, il faut qu'il vive, hein.
Donc, il faut que le vide, on va rester là-dessus. Merci beaucoup François Prieux de nous avoir raconté cette belle histoire, la belle histoire du jour, celle de Jean Courdil, appelé par la Vierge à l'unité dans son village, celui de Celles, où donc on a compris que la Vierge est apparue au XVIIe siècle. Merci beaucoup François Prieux.
Merci Isabelle et bonne journée à vous.